France Inter.
S'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit, je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant.
Le Penseur, nouvelle chanson extraite du 11e et nouveau disque studio de Benjamin Biolay, le disque bleu. Bonjour Benjamin Biolay. Vous avez l'air en pleine forme.
Ça va plutôt pas mal. Oui.
Quand vous dites ça va plutôt pas mal, ça veut dire quoi? Quel est l'état présent de votre esprit alors que le disque vient de sortir?
Un peu préoccupé par ça, parce que c'est normal, c'est quand même quelques années d'une vie qui... C'est comme, je pense, pour les metteurs en scène, quand ils ont écrit un scénario, tourné, monté et que ça sort... Ça doit être un moment de vertige. Là, moi, j'ai un peu l'habitude, mais ça reste un moment singulier.
J'ai lu sur votre page Facebook, j'ai l'impression que ce disque bleu vous plaît et rien ne pourrait me rendre plus heureux. Et je me suis dit, quand on est un incontournable, et sans flagornerie, de la chanson française, après 25 ans de chansons, on a encore une peur réelle.
Faire un album, c'est quand même remonter le courant et se dire que tout recommence un petit peu, de toute façon, quoi. ça n'enlève rien à la valeur des chansons d'antan, mais moi j'ai pas envie qu'on me dise toute ma vie que mon premier album était bien, quoi. C'est
donc, Rose Kennedy.
Ouais, ça m'arrive souvent par ailleurs.
Mais et ça vous crispe un peu?
Non, pas du tout, ça me fait très plaisir, mais c'est vrai que c'est important de d'avoir l'impression de redémarrer une aventure et de miser quelque chose d'intime.
Bientôt la scène, et c'est là finalement que le disque sera vraiment achevé, parce qu'une chanson prend vie devant le public.
Ah oui, c'est là où vous avez élevé plein d'enfants et vous voyez lesquels se comportent le mieux en société, c'est un peu quelque chose comme ça. Parce que pour l'instant, elles ont toutes à la même tête à mes yeux. Elles ont demandé un temps d'investissement différent des unes les autres.
Il y en a 24.
Ouais, c'est ça. Mais j'attends de voir ou d'entendre aussi. Entendre les gens chanter une chanson à tue-tête, c'est bouleversant. Quand même.
Ah, ça, c'est un marqueur quand on est en scène, de voir quelle chanson est chantée à tue-tête.
Non, parce que certaines chansons sont tellement introspectives que je pense que la pulsion du public ne serait pas de chanter à tue-tête.
Donc c'est difficile de savoir la réception.
Non, et justement, ça va être les applaudissements, par exemple, sur une chanson comme ça, qui vont vous dire, oh là là, parfois vous serez déçus, mais parfois vous serez absolument étonnés et impressionnés par l'espèce de vrombissement d'applaudissements qui surgit après la dernière note.
Et est-ce que ça change la setlist, comme on dit, en fonction des réactions des premières semaines? Est-ce que vous allez changer ensuite ce que vous proposez au public comme
une
chanson?
Une chanson qui n'a pas l'air de rencontrer...
Vous l'écartez?
Ouais. Heureusement ou malheureusement, c'est difficile à dire, mais a priori, oui, je la dégage.
D'accord,
ouais.
Donc ça bouge une setlist.
Ça bouge tout le temps, sinon c'est vraiment, je pense, trop répétitif. C'est de la musique live. On peut pas faire un bœuf, mais il doit y avoir une part de liberté pour les musiciens qui est importante. Sinon, c'est sclérosant. Et on est de moins en moins dedans, quoi. Plus on connaît les choses par cœur et moins elles bougent, plus la faculté à se surpasser s'amoindrit en vérité.
Le bleu, le disque s'intitule le disque bleu, comme il y a eu l'album blanc des Beatles. Le bleu, c'est une couleur sereine. On pense
pour moi, oui. Oui,
ouais, pour tout le monde même. On pense.
Non, parce qu'on parle aussi du blues, donc qui est quand même, et de l'âme bleue, tout ça. Et
moi, je pensais au ciel bleu.
Ouais, pour moi, c'est la couleur du ciel, la couleur de l'océan ou de la Méditerranée. Oui, c'est quelque chose qui me rend absolument serein et qui, je suis assez cyclotimique et le bleu me met d'une bonne humeur immédiate.
Vous pouvez même parler de la mort dans le disque sans en parler d'une manière tragique.
Ben
ça,
non,
vous en parlez et puis ça passe.
Ben bien sûr, comme les gens.
Dans Le Penseur, on entendait là « J'aime bien mourir, ma non troppo ».
Oui, parce qu'il a un peu, il a quand même quelques grammes dans le pif, ce penseur. C'est ça que je trouvais émouvant dans cette chanson, sans la juger. C'est que c'est pas Socrate qui parle, c'est n'importe qui. Et ça arrive des moments comme ça, un peu, on est soudainement quoi devant un paysage ou quelque chose et on a l'impression de penser à rien. Et en vérité, on a des réflexions quasiment souterraines, quoi, très profondes.
Benjamin Biolay, bienvenue dans la balade. On va parler avec vous, on va vous écouter à nouveau. Et puis on va écouter aussi celles et ceux qui font la musique. Et vous avez choisi des chanteurs, par exemple Marguerite.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui elle est? Est-ce que vous appréciez chez elle?
Ah, déjà, elle a fait un tube pour moi. Sa chanson, Les filles, les meufs, tout ça, c'est vraiment, je l'ai entendu une fois, je me suis dit waouh. Et son personnage m'a l'air extrêmement sympathique. Et je sais qu'elle vient de la Star Academy. Mm-hmm. Et la Star Academy est devenue une espèce de petit conservatoire de Mireille avec des gens de tout style. Et elle, je trouve qu'elle s'insère dans un style de chanson un peu ludique, mais super bien composée et écrite. Que
oui, et capable de dire facilement des choses très intimes, comme sa bisexualité dans la chanson.
Oui, voilà.
Ou là, on va écouter les avions, c'est une histoire de séparation.
Oui, c'est très joli. Et puis, il y a une notion de poésie tout de même qui est intéressante.
Marguerite, Les avions, la balade de Benjamin Biolay.
On savait que c'était fini, on est quand même parti dans des gens loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus joli? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi, amour à refroidi. Je crois qu'on s'est tout dit. On s'est pas vu s'affaiblir, c'est facile de se mentir. On se croit toujours solide, jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel? Est-ce qu'il y a des avions qui... Chez moi c'est pas bien rangé. Dans le poulet seul les clés. Plus de traces sur l'oreiller. C'est mieux. Et puis faut que je te rende tes fringues. Ce sera la dernière étreinte. Je ferme la porte et je me blinde. Adieu. La musique était jolie. Mais le texte mal écrit. Des fausses notes dans la partie.
Tout le monde ne sait pas que Benjamin Biolay vient du classique. C'est important de le dire et de le redire parce que vous avez fait le Conservatoire de Lyon comme tromboniste. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de ce qui vous a poussé à aller vers cet instrument-là ?
Oh, c'était l'envie de partir de chez moi, en fait. En vérité, moi, je voulais déjà jouer de la guitare, du clavier. Je voulais déjà faire des chansons quand j'ai commencé le trombone. Donc, parce qu'avant, j'ai fait du violon, puis j'ai fait du tuba. Et puis, il se trouve que j'ai essayé un trombone pour m'amuser quelqu'un de très très connu m'a dit tu joues très bien, tu devrais en faire et tout, puisque tu me dis que t'en fais pas. Et j'ai suivi cette espèce de route. Et cet instrument, je l'aime beaucoup et j'étais très content d'être performant dans cette espèce de centre de formation qu'est le conservatoire. Mais je me suis volontairement jamais inscrit dans les classes de composition, d'analyse, de contrepoint pour rester complètement autodidacte comme compositeur en vérité.
Vous composiez déjà des chansons ?
Ah oui, bien sûr. Et au conservatoire de région de Lyon, le directeur qui s'appelle René Clément, qui n'est plus directeur, me laissait, on louait des studios de travail avec des pianos, et qu'il entendait bien que je soufflais dans mon trombone 9 minutes, et qu'après, je jouais du piano tout doucement, en murmurant. Et une de mes grandes fiertés, c'est que lorsqu'il est parti à la retraite, ce directeur, il a invité deux anciens élèves, et c'était Anne Gastinel, une des plus grandes violoncellistes du monde, et moi, en disant bien évidemment que moi, j'étais le parcours qui s'est pas bien déroulé, mais dont il était tout aussi fier que le parcours qui s'était
le contre-exemple, mais qui est quand même un exemple. Oui, ça doit être émouvant. Et puis vous avez gardé des amis filles, je crois d'ailleurs, qui sont violonistes.
Les garçons qui sont tubistes, tout ça, bien sûr, et trombonistes, bien sûr.
Certains jouent et certaines à l'Orchestre de Paris.
Bien sûr, ouais.
Et c'est beau cette fidélité.
Moi, c'est l'amitié aussi, c'est ma famille un peu. C'est quand on arrive assez jeune comme ça au conservatoire, au début d'adolescence, on noue des amitiés qui sont un peu éternelles, je crois.
Elles disent de Benjamin Biolay, c'était un rebelle au conservatoire.
Oui,
ça,
oui.
Ça prenait c'est... quelle forme, cette rébellion ?
C'était très, très difficile à supporter, j'imagine, pour les gens de l'encadrement, parce que je n'aime ni donner des ordres, ni en recevoir. Donc au conservatoire, c'est compliqué.
On vous en donnait un peu trop ?
Non, mais j'aimais pas les formes de brimage. Mais il y en avait peu. J'ai été dans une période où vraiment ce directeur et les enseignants, comme Joël Nico, plein de gens et tout, que je pourrais pas tous citer, étaient formidables et tout. Christian Delange, qui nous a quittés, qui était un immense tubiste. J'ai eu que des enseignants vraiment géniaux, des gens formidables.
Ça a formé votre oreille?
Ah bah oui, ça par contre, oui, c'est une école formidable, puis ça apprend à jouer à plusieurs.
Oui, dans un orchestre.
Non, mais jouer, moi je le conseille, évidemment. Ah ça, j'adorais quand c'était un grand chef, et tout là, il n'y a plus de rébellion qui soit, on est tous...
unis.
Ouais, bien sûr, et puis on est très conscient de ce qu'on est, on est une touche du piano, hein, rien d'autre, et c'est lui qui appuie dessus hein, quand il veut. C'est... Voilà, il faut se laisser porter, c'est comme quand on est acteur au cinéma, le maestro, c'est le metteur en scène... Il faut suivre, il faut jamais avoir de problème d'ego et pas de souci de rébellion. C'est pas une réelle autorité, hein. L'autorité, c'est la personne qui a composé la pièce. Mmh. Elle n'est plus de ce monde la plupart du temps, mais dans le chef d'orchestre, il y a son rapport intime avec le compositeur. C'est pas des égotripes que sont les chefs d'orchestre.
Dans les artistes que vous aimez, dans les artistes qui sont vos aînés, il y a deux disparus. Il y a Brassens, que vous citez souvent. Vous trouvez qu'on ne parle pas assez du compositeur.
Absolument.
Mais qu'il était doué et plein de musique classique dans
les oreilles. Il y a 350 000 collèges, il n'y a pas beaucoup de conservatoires, par exemple, Georges Brassens.
Ah oui.
Ouais, c'est un signe.
On se souvient de l'auteur, mais pas assez du musicien. Pas assez
du musicien.
Parce qu'on pense qu'il fait des musiques à deux temps sur sa guitare.
C'est ça, on pense qu'il fait la fameuse pompe, qui est à peu près toujours la même tarentelle que sur Garrigou ou sur la mauvaise, mais pas du tout, sur la mauvaise réputation, mais pas du tout. C'est un compositeur extrêmement profond, extrêmement raffiné, extrêmement compétent, et qui serait comme le Bach de notre artisanat, qui est la chanson française, là, quand même.
Vous pensez qu'il a écouté beaucoup de classiques, par exemple, Brassens ?
Il a écouté tellement de musique, il a écouté beaucoup de résidus de classiques. Il a grandi dans les années 30, donc il y avait quand même encore beaucoup d'opérettes, et puis c'est le début de Django Reinhardt, de plein de trucs, de la musique américaine qui arrive, qui est quand même qui aujourd'hui serait quasiment de la musique classique, mais c'est le jazz, la chanson de son époque, le musical en vérité, quoi. Les grandes années du musical.
Et puis il y a un autre auteur, compositeur, interprète qui lui aussi multipliait les métiers dans son propre métier, c'est Gainsbourg. Il a écrit notamment cette chanson que vous aimez particulièrement, Benjamin Biolay.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant.
Mais je peux vous dire que ça anime Benjamin Biolay d'écouter Aux Armes, etc.
Ouais. C'est notre hymne national et puis c'est Gainsbourg, donc ça fait beaucoup de choses que j'aime.
Il rajoute des petites choses, des petites notes, des petits instrus.
Oui, c'est fait à Kingston avec une équipe de gangsters rasta là, et tout, qui lui ont fait un playback aux petits oignons. Mais c'est, je sais pas si c'est de la provocation, je pense que c'est 50% de la provocation, 50% sincère, quoi. Et puis c'est marrant de reprendre ce qu'il y a sur le manuscrit de Rouget de Lisle, parce qu'à chaque fois qu'il remet Aux Armes citoyens, il met Aux Armes, etc. Comme on écrit sur les, ou parfois on écrit au refrain ou des choses comme ça.
Sur les partitions.
Et puis c'est une des premières cassettes que j'ai eue pour moi, que j'ai écouté tout l'album, est merveilleux.
Là, il faut imaginer Biolay à Lyon.
À Villefranche-sur-Saône, ouais.
Déjà à Villefranche-sur-Saône.
Ah, j'avais 10 ans quand j'écoutais.
Toujours ça. À Villefranche-sur-Saône, ouais. 10 ans, ouais.
Et la chanson, Lola Rastaquer, je la trouvais merveilleuse. Le latte coeur que j'ai cité dans le jardin d'hiver, il vient de là.
D'ailleurs, dans votre...
Il faisait le plat comme un latte coeur qui décolle en vibrant vers les cieux africains. C'est des choses...
C'était un hommage.
Qui m'ont marqué, bien sûr.
Ouais, et puis, il y a aussi des chansons directement inspirées de Gainsbourg dans votre nouveau disque.
De Gainsbourg et Vanier. C'est bien de le préciser aussi, ouais. Parce que Jean-Claude Vanier, c'est quand même... Gainsbourg et lui, c'est le meilleur groupe français de tous les temps.
Un grand arrangeur.
Ils ont fait qu'un album, mais c'est Melody Nelson.
Bien sûr.
Quand même,
c'est culte.
C'est un monstre, ce disque. C'est une formule, hein. Tout le monde le reconnaît dans le monde entier. Les gens qui l'écoutent en entier sont toujours subjugués, émerveillés. Et puis, Alan Parker dessus, il y a plein de gens. C'est un super, super groupe. Là, c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire comme dans la vie. Du coup, je me suis dit, allez diguer un peu dans l'ancienne discothèque de mes parents. J'ai vu les 45 tours et des trucs comme ça qui s'étaient achetés quand ils étaient jeunes mariés. Et j'ai pu écouter de la pop et des choses comme ça.
Vous avez bon goût, les parents Biolay?
Oui, il y avait du Beatles, il y avait des trucs pas mal. Il n'y avait pas beaucoup de musique rock ou machin, mais c'était des bons trucs, quoi, carrément. Mmh.
Vous avez tenu à ce qu'on écoute? L'affaire Louis Trio, succès de l'Arme, qui a été un tube d'ailleurs de l'affaire Louis Trio. Vous avez beaucoup travaillé avec Hubert Mounier. C'est quoi, c'est qui pour vous Hubert Mounier qui est disparu à 52-53 ans? C'est comme un frère, vous diriez?
Ah ouais, vraiment. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez fait sur ces disques quand il a chanté ensuite en solo?
Tout ce qu'il me demandait de faire, j'ai toujours admiré, donc j'ai toujours été comme à son service. Enfin, c'est normal quand on est réalisateur d'un... Quand on est réalisateur, il y a deux sortes d'artistes. Ceux qui sont tellement pas, pour lesquels il y a tellement de choses à faire, ceux qui n'ont pas rangé du tout leur chambre, on va utiliser l'allégorie, et ceux qui l'ont vraiment trop rangé, Hubert, tu faisais partie des gens où tout était nickel et il n'y avait plus qu'à exécuter, parfois à avoir des débats en disant tu es sûr que ceci, mais il était, on était très amis, donc vraiment je pouvais lui dire viens, j'enlève le piano, je fais je sais pas quoi, il était toujours ok, à la fin il avait toujours le dernier mot. Mais c'est l'artiste le plus intense que j'ai connu avec Brassens, que je n'ai pas connu. Mais vous voyez, c'est ce genre de travailleur, quoi.
C'était quoi le talent principal d'Hubert Mounier?
Ah, franchement, il en avait énormément, mais mélodiste hors pair, harmoniste, mélodiste hors du commun. Et c'était un grand chanteur, évidemment, il était un vocaliste époustouflant, mais il avait un sens de la mélodie que j'y pense parfois. Des fois, je compose, je me dis, qu'est-ce qu'aurait fait Hubert, tiens, mais je trouve pas, bien sûr.
Est-ce que c'est un mentor aussi?
Oui, bien sûr. J'écoutais la chanson que j'ai choisie, c'est parce que quand elle est sortie, moi j'avais 15 ans, je l'avais déjà rencontrée par l'intermédiaire du monde de la BD et tout, mais je l'avais pas revue et c'est là que je me suis dit, ouais, lui il est trop trop fort, faut vraiment que la vie nous propose de croiser nos chemins, parce que je suis sûr que on ferait des trucs bien et que je m'entendrais bien avec lui, et j'avais raison. Mais j'avais entendu Salvador, j'avais entendu tout là dans cette chanson, tout ce que j'aime.
Une chanson qu'on caresse pour qu'un visage disparaisse. Fuyez douce image, fuyez douce image. La tristesse du chanteur, il la chante plus qu'il ne la pleure. Fuyez douce image, le souvenir suffit pour faire un succès de larmes dont la vérité nous charme. Le temps efface pour qu'on s'enlace sur des succès. Le temps romance pour que l'on danse, pour que l'on danse. À jamais nous enchaîne. Fuyez douce image, fuyez douce image. La vengeance du chanteur, c'est qu'il peut ajouter des cœurs. Fuyez douce image, le souvenir suffit. Sur les succès de l'art, dans la vérité.
trouvez aussi qu'elle ne vieillit pas, cette chanson, Benjamin Biolay ?
Ah oui, puis elle est tellement bien orchestrée, elle est tellement... C'est Pierre Adnaud qui a fait l'arrangement, qui joue du piano.
Et d'un seul coup, on entend une harpe.
Il y a une harpe,
D'un seul coup, un orchestre de jazz.
Un orchestre de jazz, des cuivres, je crois qu'il y avait Jérôme Nollet, des gens comme ça et tout. Et c'est vraiment... C'était du grand art, ça s'est fait en studio à l'époque, on pouvait absolument rien corriger de manière digitale, donc c'est vraiment, ça a été joué comme ça.
Ça vous a peut-être donné un sens de la liberté et justement de l'audace à vous aussi, Benjamin Biolay, de travailler avec lui.
Avec Hubert, bien sûr, parce qu'il avait un côté comme ça très, assez burlesque, et la fin, là, quand ça part en big band, il y a plein de gens qui étaient un peu dans le groupe qui trouvaient ça bizarre, on va dire.
Surtout qu'il réussit à retomber sur ses pattes et à terminer la chanson au piano, comme un vrai crooner.
Ah bah oui.
Vous chantez souvent avec des femmes, des musiciennes dont vous appréciez le travail ou des femmes qui à un moment traversent votre vie. On s'est dit que des extraits de duos constitueraient un florilège qui vous raconte. Voici les choix de notre réalisatrice Anne Beinfeld.
Des lendemains qui chantent sans heure de fil d'attente.
Ça me va droit au cœur de voir toute votre estime. C'est cuisine, malgré mon peu d'ardeur. Votre beauté sublime n'a rien vu des heures qui déclinent sous les confettis. J'ai rêvé ma vie comme un sombrero en terrain d'élite en Scandinavie dans un port cher à mon cœur sous la pluie.
Chiara Mastroianni chantait avec vous, Benjamin Biolay, Françoise Hardy, Jeanne Chéral, Julia Stone, Ambrosia Parsley, Juliette Armanet. C'est doux, un duo ?
Ah bah visiblement, j'avais pas réécouté ça depuis longtemps, mais s'il y a un espèce de côté cocon là. Comme ça. Mais souvent je chante doucement, dans, c'est plutôt des ballades, ce genre de participation ou de duo. C'est émouvant en tous les cas de réécouter les choses, c'est vraiment le cas en ce qui me concerne, donc...
Ça vous rappelle des moments de vie ?
Oui, ça me fait m'attendrir un peu sur plein de choses, bien sûr.
Vous vous êtes retourné vers les enceintes du studio, vous avez bougé votre fauteuil quand Françoise Hardy et vous chantiez. Pourquoi ?
Parce que comme elle n'est plus là, je ne vais jamais réécouter ça et j'ai même du mal à l'écouter. Sauf les choses de l'époque où je ne l'ai pas connue. Mais, et pourquoi ? Parce que cette voix, c'est une des plus belles que je connaisse, enfin, que j'ai vu derrière un micro.
Et qu'on identifie immédiatement.
Ah bah, c'est Françoise, c'est vraiment...
C'était comment le travail avec elle ?
Oh, super. Un peu compliqué sur des trucs quand elle était un peu déterminée.
Un peu raide ?
Parfois. Mais oui. C'était sûr. Vous la connaissiez aussi, elle avait beaucoup d'humour, donc oui. Tout passait très bien, en fait. Elle était hilarante.
On lui pardonnait son mauvais caractère.
Quand elle était, parfois, elle était un peu ronchon, ou un peu, oui, un peu obtus, mais elle était tellement agréable et marrante, en vérité.
Je ne vous serre pas la main, il y a des virus.
Voilà.
Il y avait beaucoup de sensualité dans ce qu'on a entendu. Il y en a en général dans les chansons de Benjamin Biolay. Ça vient peut-être de l'écoute de Gainsbourg, ça. Je me suis dit qu'il vous avait, ça c'est mon interprétation, qu'il vous avait autorisé à parler de désir, de caresse, d'amour, de sexe.
Pas seulement, ça vient aussi beaucoup de l'écoute de Charlie Couture, figurez-vous.
Parce que
je l'ai énormément écouté. J'ai beaucoup écouté Lavilliers, des gens comme ça. Et beaucoup de rap aussi, et beaucoup de choses où en fait le langage cru et peut être poétisé, quoi. C'est vraiment... Charlie dit, quand il décrit quelque chose, il est rarement métaphorique. Il peut dire les choses absolument telles qu'elles se déroulent dans sa chanson. Et pour ce qui est du côté un peu sensuel, ça, c'est Gainsbourg, bien sûr, quoi. La façon de l'orchestrer, de le chanter pas trop fort. Mais c'est aussi Chet, c'est aussi des gens, Marilyn Monroe, dont je suis dingue. D'une sensualité folle.
Le côté poupoupidou.
Ouais, mais la voix un peu, elle a fait tu vois, un truc un peu, il y a un rayon de soleil dans la voix de Marilyn, mais c'est très sexy quand même.
C'est bien que vous citiez Chet Baker, parce qu'effectivement, il y a une sensualité, voire un érotisme dans ses chansons, et même dans son interprétation avec son instrument, la trompette. Il a appris à respirer, puisqu'il soufflait dans une trompette. Vous souffliez dans un trombone. Est-ce que ça a aidé le chanteur que vous êtes devenu?
Après, je suis pas vocaliste, je suis pas chanteur à voix, comme on dit, mais l'aider à placer ma voix et à respirer, bien sûr, parce que c'est souvent l'essentiel dans la vie de chanteur. Et même le principe de warm-up, de la chauffe, quand on est cuivre, on commence toutes nos journées par ça, quoi. Donc moi, je commence mes journées par chauffer ma voix, faire des espèces de souplesse, comme on dit en cuivre, pareil. Et Chet, par exemple, c'est un jeune homme qui a jamais soufflé dans quoi que ce soit de sa vie, et puis à l'armée, il a découvert le clairon, puis la trompette, etc. Et puis quelques années seulement après, il a rencontré Jeremy Mulligan, etc. Mais c'est effectivement, quand il chante, faites attention, il ne respire jamais tellement. Il est bien placé au niveau de son diaphragme, de tout. Henri Salvador aussi a été un des plus grands chanteurs, donc respireur, que j'ai connu.
Camille Yembe, voilà encore un des choix dans la balade de Benjamin Biolay. C'est la nouvelle révélation de la scène belge francophone. Camille Yembe, pourquoi ?
Ah, parce que Bruxelles, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment une mine d'or, enfin, et j'ai vu cette chanteuse 2-3 fois à la télévision, et j'ai aimé à la fois son attitude et sa façon de faire de la musique, mais aussi le livret, quoi, les chansons en elles-mêmes, je les trouve modernes et empreintes quand même d'une certaine tradition.
Camille Yembe, encore.
Putain, je suis pompée, j'ai trop vu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Putain, je suis pompette, j'ai trop vu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi, je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une homme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Tu te demandes si je suis tombée sur la tête. À parler d'espace, de chimères et de comètes. Je fais le compte des amours perdus de mes têtes. Mais toi tu penses que c'est la fête sous mon parapluie. Je collectionne les coquillages, les parenthèses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pauvre d'être à l'ouest? Sans faire exprès, j'étais pareil. Et toi tu penses que c'est la fête sans parapluie. Putain, je suis pompée, j'ai trop vu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Putain, je suis pompée, j'ai trop vu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie.
Ça vous plaît ça, hein, ouais, Benjamin Biolay, ouais. Oui, c'est bien ce mélange d'électro, de pop.
Ouais, même de façon de rapper, de l'élite, de rap, des de trucs, ouais, de faire des... Ouais. Non, tout va bien.
Votre double disque, le disque bleu, Benjamin Biolay, il a été écrit et enregistré entre Paris, Bruxelles, Rio, Sète, ouais, où vous avez une maison.
Et beaucoup à Buenos Aires.
Et Buenos Aires, ouais. Buenos Aires. Vous parlez espagnol et portugais
couramment. Non, portugnol, mais je parle pas du tout. Je parle espagnol et portugnol, c'est-à-dire une espèce de...
On vous comprend.
Voilà, mais je parle pas du tout portugais.
Non. Qu'est-ce que vous allez chercher en Amérique latine ?
Moi-même, je l'ai trouvé en plus, donc non, nous-mêmes d'ailleurs.
Et vous avez trouvé quel Benjamin Biolay là-bas ?
L'italien. Non, je réponds comme ça, random, mais en même temps, cette réponse est sincère. Une espèce de méditerranéen au bout du monde, parce que tout le monde est un peu là-bas. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'Européens qui sont, ou de descendants européens, basques, irlandais, italiens, espagnols, machin, français, allemands. C'est quand même au bout du monde, c'est un peu l'Europe telle qu'elle était dans les années... au début du XXe siècle, il y a quelque chose et même... Oui, il y a des moments de revival, il y a des moments où on a l'impression d'être en Europe il y a très longtemps, et puis évidemment c'est hyper moderne, c'est quand même une ultra-ville avec toutes sortes de quartiers, toutes sortes de gens et une densité urbaine qui est folle. Hein.
La face B de votre disque, elle est de ce côté-là. Elle est du côté de l'Argentine et un petit peu du Brésil aussi. On sent la bossa.
Non, il y a des chansons écrites là-bas aussi, ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
Alors que la face A est plus, on va dire, pop anglo-saxonne. Gainsbourg.
Gainsbourg, je sais pas, mais j'aimerais bien. Mais là-bas, oui, c'est pas quand j'écris différemment, mais j'avais envie d'orchestration différente. J'avais envie de jouer avec des musiciens locaux et que ça ressemble à ce que j'avais dans la tête.
En quoi sont-ils différents des musiciens européens?
Les Argentins sont pas très différents des musiciens européens. Les Brésiliens sont très différents des musiciens européens.
Au niveau du rythme?
Non, au niveau de la façon de faire de la musique, de la concevoir, de... Il n'y a pas le côté besogneux qu'on a tous en Europe ou aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, 3-4, ça part. Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme au football. Si vous regardez moi faire une passe et puis regardez Neymar faire ses trucs et puis bon, vous regardez un footballeur de l'équipe de France jouer et puis regardez Neymar, Garincha ou je sais pas qui faire ses trucs à lui et puis vous allez vous dire waouh. S'il y a une espèce de rythmiquement, ils sont plus faciles que nous. Harmoniquement, ils sont plus éduqués que nous. Il y a quelque chose dans la musique populaire qui est plus raffinée. On n'y peut rien, c'est pas un jugement de valeur. Mais là-dessus, on est les Français, on est moins... On est un peuple de grands musiciens, mais on n'est pas un peuple de musiciens. Les gens ne chantent pas spontanément, tapent pas spontanément sur les tables, les machins. Il y a un truc... Il y a pas la musique, elle est pas invasive. Puis la musique est partout, elle est beaucoup plus invasive que dans nos contrées. Vous pouvez en entendre de partout, dans toutes les situations, passives comme actives.
Vous vivez entre, bon, en général, votre tournée, et puis Paris, Sète, l'Argentine, un petit peu le Brésil. Si vous n'aviez...
Non, je vis pas au Brésil. Là,
jamais.
Non, c'était pour enregistrer. Non.
Si jamais vous aviez une seule maison ou une seule destination, ce serait laquelle?
Elle serait à 7, mais j'y mettrais un peu tout, une petite tour Eiffel, un petit obélisque.
Un peu de pluie de Paris.
Ouais.
Ah, ce serait 7 quand même. On a parlé tout à l'heure du rap. De temps en temps, vous rappez peut-être pas, mais vous vous approchez du rap ou du slam. Vous aimez dire des textes, mitrailler un peu, chercher comme ça un flow. Est-ce que Oxmo Puccino, avec qui vous avez travaillé, enregistré, est toujours un musicien que vous écoutez?
Oh bien sûr, ouais, c'est une des grandes grandes plumes françaises. Oxmo, c'est vraiment un grand musicien. Il n'est pas instrumentiste, mais il a pas besoin parce qu'il aime vraiment la musique. Il la sent très bien. Il s'entoure toujours de musiciens très très raffinés. Et puis, non seulement c'est une légende du hip-hop français avec tout ce que ça implique, mais c'est devenu, je trouve, une de nos grandes plumes. S'il y avait la collection chez Segers, là, de l'époque poète d'aujourd'hui, Oxmo, il y aurait tout à fait sa place.
Elle revit, cette collection, peut-être.
Ah bon, je savais pas.
Ouais, ouais. Clara Isée a publié des poèmes, mais c'est vrai que Brassens avait été le premier chanteur à être publié par cet immense éditeur et grande collection. Populaire, d'ailleurs. Oxmo Puccino et tuerie magique.
Laisse tomber la pluie, petit. Pas assez de soif ni d'appétit. Tu vaux que dalle face à tout ce bruit. Tellement de galères téléphonées. À force de les voir venir, je fais l'étonner. Le bonheur c'est pas le cul ni les thunes. Le manque d'amour fait de nous des sujets d'études. Je relève tous les défis. Terre plate, fusée, typhus, info diffuse. L'usine d'à côté privatise l'eau, cause des maladies chroniques et on oublie tout à Noël. Ce soir il pleut, qu'est-ce que t'es belle. Mets ton pyjama, on sort pas de l'hôtel.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique. Confier tes secrets à un piano.
Bad boy avance, bouche close. Ceux qui n'ont rien fait ne parlent jamais bien de ceux qui font les choses. Pas de seconde à perdre, laisse-moi kiffer tranquille. Trop de causes défendues me font siffler. Donner son avis, tout le monde s'y met. L'art est difficile, les postes font s'y mettre. Quand on pourrait se taire, à l'heure où je te parle, une bombe est larguée quelque part. Si 30 likes valent une vie, clique pour la planète, ramasse les paillettes, rien dans l'assiette. Je suis né au bord du désert, un jour de pluie, y'a ce qui t'inspire et ce que le sort te réserve.
J'ai juste eu le temps de t'avoir putain de mégo. Et 9 mois après, je marche sur du Lego. J'entends les noms d'oiseaux que l'on prête à tous ces poètes.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique.
Vous êtes auteur, vous êtes compositeur, vous êtes interprète, vous êtes multi-instrumentiste, vous êtes arrangeur, Benjamin Biolay, orchestrateur, réalisateur, vous êtes souvent assez... Enfin, vous impressionnez vos camarades musiciens et musiciennes. Est-ce que tout ça, vous l'avez appris très tôt ou est-ce que...
Je travaillais comme un taré là-dessus.
Pareil que vous travaillez comme un taré.
Ouais, moi maintenant, ces choses-là, moi la réalisation des trucs, j'ai moins l'occasion et puis je me contente d'écouter les nouveautés, et puis je fais ça souvent avec Pierre, quasiment tout le temps avec Pierre Jaconelli, qui est un immense musicien et tout, donc, mais j'ai travaillé tout ça, oui, et puis les cordes au début, c'est parce que j'avais pas les moyens de me payer un arrangeur, enfin, tout ça, ça part de méthode à l'Argentine, en fait, se débrouiller.
Vous
quoi.
Qui aimez tant ce pays.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vraiment un travail d'autodidacte.
Ah oui, à part jouer du trombone, en tant que musicien, je suis un autodidacte, ouais. Et du violon, parce qu'on m'a appris aussi. Mais...
Vous arrangez, donc vous écrivez la musique sur des partitions, parfois dans le métro, avant d'arriver en studio, Benjamin Biolay.
Oui, ça a pu m'arriver, oui, c'est pas très agréable, mais en même temps, c'est marrant, quoi, parce que ça veut dire que on utilise des parties du cerveau dont on se sert plutôt rarement, c'est-à-dire d'être capable de composer à la table, c'est-à-dire sans aucun instrument de référence... On est tous un peu capables, mais faut se mettre quand même dans une espèce de bulle assez étonnante.
Oui, moi, ça me semble fou de réussir à arranger comme ça dans un taxi. C'est-à-dire qu'une mélodie viendrait comme...
Ah non, c'est pas une mélodie, c'est aussi une succession de codes. On se dit, c'est là, c'est en face, c'est en machin. Faut se rappeler de la mélodie de chant et puis essayer de bricoler des trucs. Et puis fredonner, et là, des trucs qui vous passent par la tête, et là, être capable de dire c'est un sol, c'est un la, c'est un ré, mais c'est pas, ça arrive pas sous la forme de notes directement.
Oui, et puis imaginez que c'est peut-être des cordes ou un saxophone, je dis n'importe quoi. Ça aussi, ça m'épate. De trouver l'instrument.
Non, mais non, c'est un fantasme, en fait. C'est pas du tout une quête. Enfin, c'est genre, waouh, si on mettait un saxophone, ce serait trop marrant. Et puis pareil, si c'est trop, on l'enlève.
Vous en parlez comme un jeu d'enfant.
Mais c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, la production en studio. L'écriture de chansons, parfois, c'est un peu un jeu de moine. Mais de moine franciscain, c'est un peu dur. Et c'est un sacerdoce, en tous les cas. Mais la production, si on aime ça, et si on a eu la chance de rentrer dans un studio très, très tôt dans sa vie, et d'y avoir passé du temps, évidemment que c'est un amusement. Ouais.
Il faut imaginer Biolay écrire une chanson en entier et arriver avec sa chanson écrite, puis composer quasiment en studio ou tout en même temps.
Alors moi, si j'arrive avec la chanson écrite, c'est composer. Moi, je n'écris pas les textes d'abord, j'écris les musiques d'abord.
La guitare collée au ventre.
En général, ouais, quand même. Et il peut m'arriver d'arriver avec une chanson complètement finie ou d'un truc complètement chantier. Sur le dernier album, j'arrivais avec les chansons complètement finies quand même, quoi.
Parlez-nous de la chanson Orange, parce que c'est celle-là qu'on va écouter pour terminer votre balade, Benjamin Biolay. Ça vous fait rire?
Ben ouais, parce que j'ai eu seule bonne chance à la radio, Orange, elle ne va pas passer beaucoup. Donc,
non, mais je trouvais qu'elle était différente de la chanson Le Penseur, elle est plus rock.
C'est un peu ma fille, il ne faut pas qu'elle s'y fasse. Ma petite, tu ne vas pas beaucoup passer à la radio. Ben, je ne sais pas, je l'aime bien, elle me fait penser à tout ce qui me fait un peu peur. Je vois un peu l'Orange de Charles Manson, mais dedans, à la tronçonneuse, il y a Javier Milei pour moi. Il y a un peu une société mi-sectaire, mi-crypto-fasciste, mi... Ça, et j'aime bien Rob Zombie aussi, je sais pas si vous connaissez, c'est un metteur en scène de films d'horreur complètement con. Et j'aime David Lynch et tout, et j'aime bien parfois faire des petits courts-métrages comme ça dans mes albums. Je sais bien que cette chanson n'a pas de potentiel, je suis pas sûr de la chanter sur scène par exemple, mais à fabriquer, bah pareil, c'est hilarant quoi.
N'abandonnez pas votre petite fille tout de suite.
Ah non, on va lui apprendre à marcher et tout, on n'est pas comme ça, hein. Non.
Orange, jugez vous-même, Benjamin Biolay.
S'en fout de partout, Orange. On tire des flèches sur une cible en bambou, on clenche et puis dépêche, on se tire de ce trou. Si t'as moins peur des animaux que d'être jeté dans les eaux, si tu aimes le vide abyssal, si t'aimes l'amour quand il est sale et le vent de la la mer de sable embrase l'horizon. Sois bienvenu. Sois bienvenu. Sois bienvenu dans la région. Et sois prévenu que le soir.
Voilà, Benjamin Biolay. Ça vous a fait plaisir d'écouter Orange?
Oui. J'ai beaucoup écouté ce dossier. Mais après, comme je n'ai pas la réécouter des masses, j'étais content.
Est-ce qu'il y a des moments où on en a marre de soi-même?
De soi-même tout le temps, de ces chansons un peu moins.
Oui. Vous les écoutez parfois?
À quand je travaille dessus, je suis malheureusement obligé de les écouter.
Non, mais quand vous vous reposez à 7.
Ah non, j'écoute pas la musique. Non,
écoutez les jeunes musiciens qu'on a écoutés dans la
les
balade.
Les vieux, les morts, les vivants, tous.
Vous savez que vous êtes en tournée bientôt et que vous serez les 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre au Théâtre Marigny à Paris. Mmh. Et puis la tournée, on va l'indiquer sur la page de la balade sur franceinter.fr. Merci.
Ah, merci infiniment.
D'être venu faire un tour chez nous.
Ah, merci beaucoup.
Et bonne tournée à vous.
Ah, merci beaucoup.
Anne Weinfeld a réalisé cette émission préparée avec Fanny Leroy et Louise Tempero. Valentine Chedebois a programmé la musique. Florian Dittre était à la technique.